pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Pour commencer cette émission, nous allons faire un point d'info sur la situation concernant les radios libres. En effet, dans un premier temps, nous avons appris que le gouvernement, par l'intermédiaire de sa ministre reconduite Rachida Dati, prévoyait d'amputer de 30% les aides au fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui permet aux radios associatives de garder la tête hors de l'eau. Cette annonce, retoquée, risquait de détruire une expérience riche de plus de 40 ans. Mais ne nous réjouissons pas trop vite. En 1980, le gouvernement légalise l'existence des radios. Créé en 1982, le FSER, le Fonds de soutien, permet à environ 750 radios associatives locales réparties sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones rurales, de montagne, urbaines et périurbaines, de donner un espace d'expression aux différents courants socio-culturels. Nos radios fonctionnent sur un modèle à but non lucratif. Elles soutiennent les artistes locaux, encouragent le développement des initiatives territoriales. Par cette décision inique, le gouvernement voulait éliminer des centaines de radios libres qui déjà peinent à survivre sans publicité. Depuis plus de 30 ans, FPP, Fréquence Paris Pluriel 106.3, avec ses 80 émissions originales, ses centaines d'animateurs et animatrices, ses nombreux invités, déploient ses programmes 24 heures sur 24 sur les ondes du 106.3 pour porter la voix des sans-voix, celle des grévistes, des manifestants, des enfermés, contre l'exploitation, le racisme, pour l'égalité et la liberté de choix sexuel. FPP est une radio des luttes dans la pluralité de ses expressions culturelles, politiques et communautaires. Les gouvernements, mandature après mandature, ont déjà réduit les aides publiques du secteur associatif indépendant. Les subventions sont conditionnées à des appels à projets qui sont autant de moyens de domestiquer nos activités. Depuis notre création, nous avons vu nos moyens financiers fondre et notre activité sans cesse menacée. Dans un monde où les médias sont assujettis au pouvoir de l'argent, débitant à longueur de colonnes, d'images et d'ondes la rengaine du libéralisme, nous continuons de penser que la radio, média populaire et non traçable, doit continuer à jouer un rôle dans l'expression de ceux et celles qui ne l'ont pas, et dans l'extension des luttes comme elle l'a déjà fait au cours de l'histoire. Hier comme aujourd'hui, conserver des espaces d'expression critique et d'information indépendante du pouvoir est essentiel. Dati, après avoir reculé face aux contestations, a repris au vol une proposition de Philippe Ballard, le député RN de l'Oise, qui a proposé de faire le ménage dans les radios associatives. Je cite « Dans ce monde cohabitent des stations tout à fait honorables et nécessitant un soutien, mais aussi d'autres qui peuvent tenir à l'antenne des propos hors du champ républicain. Il serait nécessaire de faire le tri et d'attribuer les subventions sur des critères plus solides. À l'en croire, seuls les médias soumises pourraient bénéficier des mannes, des seigneurs au pouvoir. » Voilà où nous en sommes. Le fonds de soutien a été amendé apparemment de 2 millions. C'est un projet. Il va passer au Sénat. Il repassera à l'Assemblée nationale. Il peut très bien y avoir un 49-3. Rien n'est définitif. C'est pourquoi nous devons rester vigilants. Nous ne nous laisserons pas réduire au silence sans réagir. Nous souhaitons, par cette intervention, inviter tous les passionnés de radio animateurs de se rencontrer, de continuer à réfléchir, à rester mobilisés. Et si nous doutions encore de la nécessité de multiplier les canaux d'information indépendants des puissances financières, nous vous proposons d'écouter maintenant le canard réfractaire hébergé sur YouTube, qui revient sur un mensonge énorme, une falsification des faits insupportable, des mots indécents prononcés. Nous voulons parler de la médiatisation des heurts provoqués par les hooligans israéliens lors du match de foot Ajax-Tel Aviv à Amsterdam.
L'affaire d'Amsterdam, c'est fou comment c'est une dinguerie ce truc. Vous allez le voir, le niveau de propagande, il est très très haut. Et puis évidemment, ça parle de foot, ça parle de critiques médias, ça parle de Palestine, donc on se devait d'analyser cette séquence incroyable au canard réfractaire. Alors, tout a commencé avec la télévision qui nous apprend une triste nouvelle. Il y a eu des attaques antisémites après un match de foot entre l'Ajax et Tel Aviv. Et tout ça s'est passé à Amsterdam.
Un déferlement de haine dans les rues d'Amsterdam hier soir, par des individus qui disent agir au nom de la Palestine.
Cela visait les Israéliens. Les Juifs ont été attaqués parce qu'ils sont Juifs.
Bon, que nous apprend ce mini-reportage infantilisant ? Eh bien, que tu as eu des Juifs qui se sont fait taper dessus parce qu'ils sont Juifs après un match de foot. Donc imagine, tu connais pas l'histoire, tu regardes pas les autres médias indépendants, t'es pas abonné à Canard Réfractaire, tu peux juste constater que, eh ben, ça craint, tu vois. Je veux dire, cette violence-là, l'antisémitisme à cause de pro-palestiniens, c'est nul, quoi. Et surtout qu'il n'y a pas que les médias qui passent ça en boucle, t'as aussi les politicards qui vont dans ce sens-là. Le président israélien, par exemple, dit, je cite, « Nous voyons avec horreur ce matin les images et les vidéos choquantes que nous espérions plus jamais voir depuis le 7 octobre. » Un pogrom antisémite qui se déroule actuellement contre les supporters du Maccabi Tel Aviv et les citoyens israéliens au cœur d'Amsterdam. Et en France, c'est pareil, hein, t'as le ministre de l'Europe qui parle de chasse aux Juifs sur le sol européen. Macron, lui, dit que ça lui rappelle les heures les plus indignes de l'histoire. Donc oui, il compare ça au nazisme, c'est que c'est sérieux cette affaire quand même. T'as Ciotti, si on l'écoute encore, bah lui, il parle de Nuit de cristal et Retailleau, le ministre de l'Intérieur, d'actes barbares relevant de l'antisémitisme pur. Donc là, clairement, il n'y a pas de doute, ce qui s'est passé à Amsterdam, eh bien c'est grave, quoi. Je veux dire, si tout le monde le dit, c'est que c'est vrai, non ? Non ? Alors on va sortir un petit peu de la propagande et faire ce que les menteurs ne font jamais, c'est-à-dire parler du contexte. Au foot, il y a ce qu'on appelle des clubs de supporters. Ça, par exemple, ce sont les Ultras de Paris. Ils sont des milliers, ils sont super bien organisés pour mettre une méga ambiance dans le Parc des Princes à chaque défaite du PSG en Ligue des Champions. Et ça, ça existe dans tous les clubs. À Brest aussi, par exemple, tu as un club de supporters qui mettent une méga ambiance à chaque victoire, eux, pour le coup, de Ligue des Champions. Et chacun de ces clubs de supporters, ils ont une culture, des pratiques qui leur est propre, avec des leaders et souvent aussi une idéologie politique. On peut retrouver par exemple des clubs de supporters racistes, tu vois, genre ceux à Madrid qui font des bruits de singes quand t'as Vinicius qui prend la balle. Et au contraire, t'en as d'autres comme à Paris qui affichent un magnifique tifo pour la paix en Palestine. Et en général, ceux qui viennent voir leur équipe à l'extérieur et plus encore à l'étranger, ce sont des clubs de supporters qui organisent le voyage et sont parfois aidés financièrement par le club. Donc si on revient à Amsterdam, on peut déjà préciser une chose qui a son importance. Les 3000 supporters israéliens qui sont venus, alors ils sont probablement juifs, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'ils font partie d'un des pires clubs de supporters au monde. Quand j'entends par pire, je veux dire que ce sont des immenses racistes suprémacistes anti-arabes, ce genre de militants pro-guerre et pro-génocide qui foutent déjà la merde en Israël et qui tabassent ici des passants en Grèce parce que, eh ben, ils sont arabes. À chaque déplacement de cette équipe à Tel Aviv, t'as donc deux jours de manifestations racistes organisées par ces militants politiques, ce qui s'est renforcé avec les massacres en Palestine et toute la propagande qui va avec. Ça a radicalisé ces types-là qui se sentent couverts comme jamais par leur gouvernement. Ces types-là, ce sont des enfoirés, et dès qu'ils sont arrivés à Amsterdam, ils l'ont encore prouvé. En gros, les supporters arrivent le mercredi pour un match le jeudi. Et on voit dans la presse apparaître ici et là les différentes actions de ces fameux supporters. Par exemple, ces supporters qui attaquent un taxi et le détruisent parce que le gars à l'intérieur, eh ben, c'est un arabe. Là, par exemple, ils déambulent dans la rue et arrachent un drapeau palestinien. Là, tu as le média britannique Sky qui parle de chants anti-arabes tenus par les supporters.
Maccabee fans were filmed singing racist and anti Arab songs.
Une journaliste de la BBC confirmera ces propos, comme quoi ces types-là étaient venus pour la bagarre et pas pour voir leur équipe se prendre 5-0. C'est ce qu'on appelle en fait des hooligans. Voilà, pour faire simple, c'est des hooligans. Et puis après, ils sont allés dans le stade. Les gars, ils ont cramé un drapeau palestinien et hollandais, tranquille. Et puis, tu as eu une minute de silence suite aux inondations meurtrières à Valence. Et qu'est-ce qu'ils font, les hooligans israéliens? Eh ben, ils font ça. Alors, pourquoi siffler cette minute de silence? Parce que le gouvernement espagnol a reconnu l'État palestinien il y a quelques mois. Voilà. Quand je vous disais que c'était des militants politiques, j'exagérais pas. Ah oui, alors ce bout de vidéo, ça s'est pas passé à Amsterdam, ça s'est passé à Beyrouth, la capitale du Liban, qui pendant ce temps-là a été bombardée par l'armée israélienne, donc pendant que les médias racontaient de la merde sur l'affaire d'Amsterdam. Voilà, on rappelle juste la réalité de ce qui se passe et qui veulent nous faire oublier. C'est important, hein, on n'est pas indépendant juste pour répéter la même chose. Et le sommet du ridicule, eh ben, c'est que tu as eu un journaliste qui était bien présent sur place pour montrer les véritables actions du club de supporters israéliens. Sauf que ce journaliste, c'est pas un journaliste de TF1 ou de France 2, c'est un gamin de 15 ans. Alors à partir de ce moment-là, c'est le bordel, on est d'accord, hein. Mais ne parler que de cette séquence-là sans parler du contexte et de toute l'histoire qui est à côté, en fait c'est juste mentir. Parce qu'on a l'impression que les juifs sont attaqués parce qu'ils sont juifs, mais non. C'est parce que ce sont des militants racistes, suprémacistes, qui ont fait des dingueries, qui ont cherché la bagarre et qui l'ont obtenue. Je veux dire, cette histoire ne mérite pas un tweet de Macron. Je veux dire, c'est une bagarre avec des clubs de supporters, des gens sur le front Palestine et tout. Ça ne mérite pas un tweet de Macron. Et pourtant, Macron, il a tweeté. Et pourtant, la majorité des médias, ils ont relayé ces fausses informations. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont transformé ces bastons de supporters en de nouvelles nuits de cristal? En fait, je crois que c'est ça le plus intéressant. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait de la propagande là-dessus? Et la réponse à cette question, elle n'est pas unique, elle n'est pas simple. Hein. Donc là, on ne va pas essayer de répondre parfaitement à ce truc-là, on n'a que 10 minutes, d'accord? Donc on va juste essayer de débroussailler un peu le terrain. Ok, un des problèmes, c'est que les journalistes en France sont des flemmards. Ils ne veulent pas enquêter. Je veux dire, ils ne vont pas chercher des témoignages contradictoires. Ils ne vont pas aller interviewer des gens. Ils ne vont pas aller sur place pour constater ce qui se passe. Et de toute façon, ils n'ont plus de correspondants à l'étranger, donc impossible de faire quoi que ce soit. Alors qu'eux, ils ont le budget, largement, pour le faire. Mais pourtant, ils ne le font pas. Il est donc plus simple pour eux de reprendre ce que disent les politiciens plutôt que de faire une analyse. Ça coûte moins cher. C'est ce qu'on appelle le journalisme de préfecture. C'est un moyen facile de faire de l'actualité puisqu'il suffit de reformuler ce que l'État et les autres médias disent. Et d'autant qu'ils font ce journalisme de préfecture en permanence. Donc, ils ne vont pas remettre en question leur pratique d'un jour comme ça, contredisant tout le travail de propagande qu'ils ont fait jusque-là sous les yeux bienveillants de leur patron milliardaire ou étatique. Ah, ne pas oublier, les médias sont détenus par des milliardaires et par l'État, et ils en font des armes de propagande. C'est le principe de base. Alors qu'on peut faire des médias basés sur le don. Tu vois, Canard, médias basés sur le don, on peut faire des trucs comme ça. Mais eux, non. C'est pas leur boulot, c'est totalement différent. Eux, ils font de la propagande. Mais plus important, l'État français, par exemple, lui, il est trempé dans des contradictions. Il fait genre, c'est le pays des droits de l'homme, mais ils soutiennent depuis le début les massacres en Palestine. Ils soutiennent un État israélien qui est en la guerre, défie l'ONU et installe des camps de torture.
sûr.
Donc l'État français, il saisit toutes les occasions pour dévier le débat. Il ne s'agit pas de l'État israélien. C'est pas la politique de Netanyahou qui est en jeu. Non, c'est la lutte contre l'antisémitisme, évidemment. Macron ne défend pas un criminel de guerre, non. Il dénonce l'antisémitisme, ce qui en fait quelqu'un de bien. Et ceux qui sont contre ça, eh ben finalement, c'est peut-être eux le problème. Alors que c'est ce type qui est au pouvoir et qui soutient des massacres et des crimes de guerre. Mais non, il veut renverser la situation. S'attaquer à Netanyahou, ce serait pour Macron remettre en cause toute sa politique et rompre de précieux contrats avec l'économie israélienne. Ce qui fait que tweeter contre l'antisémitisme, alors que ce n'est pas du tout le sujet, eh ben ça coûte moins cher. Voilà, ça coûte moins cher. D'autant que, dans cette histoire, les méchants, c'est quand même les Arabes. Enfin, comment elle est présentée dans les médias, etc., tu vois. C'est les Arabes contre les Juifs. Alors qu'en vrai, c'est un combat qui est politique et qui a dégénéré à Amsterdam, mais ils présentent les choses comme ça. Parce que pour eux, c'est une forme d'investissement. Ces types au pouvoir-là, ils représentent les plus riches et les plus puissants de ce pays, ceux-là qui s'enrichissent comme personne, provoquent des guerres pendant que nous, on s'appauvrit et on nous empoisonne. Et ils sentent qu'il y a de la contestation, ils voient les manifs, ils voient la passe politique dans laquelle ils sont. Ils savent qu'on est capable de bouger et qu'on l'a déjà fait. Ils savent que les conséquences de leur politique pourraient nous unir contre eux. Regarde les manifs en Martinique, regarde les manifs des agriculteurs, regarde les retours des appels des gilets jaunes, regarde les prix qui grimpent, les plans d'austérité via 49.3 en préparation. Alors s'ils peuvent plus nous convaincre, ils veulent nous diviser. Et c'est une des raisons qui pousse à investir tant d'argent, de temps et des propagandes pour nous dresser les uns contre les autres. D'où l'importance de ne pas tomber dans ce panneau et se rappeler qui dirige, qui prend les décisions et qui nous exploite. La meilleure réponse à donner à ces manipulations, c'est de lutter ensemble contre ces politicards, ces banquiers, ces industriels, ces financiers, ces journaleux qui nous gouvernent. C'est pour ça l'affrontement à Amsterdam, c'était politique. Et la propagande qui était avec ce truc-là, c'était aussi politique. C'est pour ça qu'on ne comprend rien à ce genre de situation si on se contente de faire des petits jeux moraux en se disant « Est-ce que oui ou non ils l'ont mérité ? Est-ce que oui ou non c'est mal ce qui s'est passé ?» Tu sais, comme les robots de journaleux là qui critiquent les rares députés qui osent contredire leur propagande.
Les personnes qui étaient dans les rues ce soir-là, c'était hooligans d'extrême droite et c'est bien de les appeler comme ça.
Vous êtes en train de dire que les supporters israéliens qui étaient à Amsterdam pour assister à ce match de foot et qui ont été sévèrement agressés l'ont un peu cherché.
En fait, c'est même pas qu'ils l'ont cherché. C'est qu'ils viennent pour ça.
On ne comprend les choses politiques qu'avec une analyse politique. C'est pour ça qu'on ne comprend rien quand on regarde les grands médias de milliardaires ou d'État et que tout devient un petit peu plus clair quand on regarde Le Canard ou d'autres médias indépendants. Donc plutôt de dire ce qui est mal ou pas, qui l'a mérité ou quoi que ce soit, on va plutôt répéter ce qui importe. Il y a toujours les massacres en Palestine et au Liban sous le regard complice de la quasi-totalité des autres États et pas que occidentaux d'ailleurs. La preuve que la guerre est la continuité de la politique économique mais par d'autres moyens. Et puis l'État ment, et les médias aussi, mais pas seulement parce que ce sont des menteurs, mais parce qu'ils servent les intérêts qu'ils ne peuvent pas révéler. Protéger les contrats d'armement, protéger les investissements, les exploitations de gaz et de pétrole, créer de la division dans le peuple. Et que tout ce qu'ils disent rentre dans ce plan qu'on peut simplifier ainsi, mieux nous contrôler et mieux nous diviser, pendant qu'ils continuent, malgré leurs contradictions, à générer encore et encore plus de profits sur notre dos. On peut aussi dire que la lutte contre l'antisémitisme, ou plutôt contre le racisme anti-juif, comme on devrait le dire, eh ben c'est quelque chose de réel. Mais la meilleure chose qu'on peut faire pour lutter contre ce racisme anti-juif, c'est de aussi lutter contre son instrumentalisation, notamment par l'État israélien et par l'État français, qui s'en sert pour mieux cacher leurs horreurs et leurs massacres. Il faut absolument couper le lien entre ces criminels de guerre et la religion juive. Alors ça réglera pas tous les problèmes, mais ça évitera au moins que les choses empirent. Et dernier point, si vous voulez vous informer correctement, il n'y a pas trop le choix que de passer par la presse indépendante. C'était Le Canard Réfractaire, votre média de révolte totalement indépendant, sans milliardaires et sans subvention. Allez, sur ce, des bisous et à la prochaine.
capital. La muerte me vino a buscar y yo le dije, carajo, respeta. Yo tengo 100 años no más, así por donde viniste regresa. Yo tengo 100 años no más, así por donde viniste regresa. Cuánto tiempo venimos corriendo, mirando mi cuerpo morir hambriento. Cuánto más tenemos que correr si ya no tenemos ni qué comer. Cuánto tiempo venimos corriendo, venimos huyendo de tu gobierno. Cuánto más tenemos que esperar para tus bolsillos poder llenar.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel à l'écoute de l'actualité des luttes et on continue. Car outre les espaces d'information indépendants, il faut également construire des espaces ouverts, physiques. C'est ce que propose un collectif toulousain qui lance une cagnotte pour acquérir un lieu, la chapelle.
Salut à vous, vous écoutez l'actualité des luttes. Et aujourd'hui, on est allé se perdre à Toulouse. En fait, c'est quand on avait marre de la grisaille et de l'ambiance morose de cet automne, alors on est allé prendre un bol de soleil et d'espoir à La Chapelle. Alors non, rassurez-vous, pas ce genre d'espoir. La Chapelle, c'est un lieu tout ce qu'il y a de plus désacralisé, ouvert sur le quartier Arnaud-Bernard. Et ça fait bien 30 ans que c'est un squat politique. On aura l'occasion d'y revenir dans la suite de cette émission. Si nous avons décidé d'y braquer notre micro aujourd'hui, c'est que ce lieu est en cours de rachat par les collectifs qui s'y organisent. Et ils sont rares, les espaces arrachés à la vie dans la ville, dans lesquels les rencontres entre les gens ne reposent pas sur le travail ou sur les échanges marchands. Alors on a décidé de laisser la parole à ces collectifs pour vous expliquer pourquoi ça vaut le coup de les aider dans cette aventure.
Donc l'histoire de cette chapelle est très particulière parce que c'est justement une particulière qui l'a fait construire en fait. Au début 1900, elle a fait construire cette chapelle qui s'appelle la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc. Elle a d'ailleurs le vitrail avec Jeanne d'Arc avec une petite date tout en bas, 1912. Donc cette particulière, elle est décédée en 1927 et dans son testament, elle a légué ce lieu au diocèse avec une clause morale comme quoi le lieu devait être voué à perpétuité au culte. Il a servi à faire des messes pendant des années, jusqu'à peu près au milieu des années 80. Et après, dans le milieu des années 80, elle a été laissée à l'abandon parce qu'il y avait beaucoup moins de paroissiens et que le diocèse ne souhaitait pas continuer à l'entretenir. Il y avait des trous dans les murs et il y avait notamment des SDF qui squattaient l'hiver et des choses comme ça. Il faut savoir, par exemple, à l'hiver 92-93, il y a un SDF qui est mort ici, qui s'appelait Jiri Wolf. C'est à lui qu'on doit la devise un peu de la chapelle qui est « Le calme et la tranquillité de l'église, c'est l'atelier idéal ». À l'été 93, donc, le lieu est pris par un collectif qui s'appelait Planète en danger. Ce collectif faisait des actions principalement contre le nucléaire, mais pas que, et c'est souvent des actions un peu théâtrales de rue. Et eux, ils cherchaient un lieu pour notamment préparer leurs actions. Donc cette chapelle était un peu en lambeaux, donc ils ont commencé à la retaper un petit peu, et ils sont notamment allés voir l'évêque en lui proposant de racheter ce lieu. L'évêque a refusé, étant donné qu'il y avait cette clause morale. La Planète en danger a commencé à utiliser ce lieu. Comme la gestion du lieu leur prenait pas mal de temps, c'est en 95, ils ont créé une autre association qui s'appelait l'Atelier Idéal. Et l'objectif de cette association est uniquement la gestion du lieu, ouvert à d'autres collectifs, etc. etc. Au bout d'un moment, en fait, le diocèse s'est mis à vouloir vendre ce lieu. Au début, ils voulaient le vendre à Habitat Humanis, qui est une association catholique un peu humanitaire, qui souhaitait faire leur bureau, leur parking et peut-être une ou deux maisons pour SDF. Il y a des copains et copines qui sont allés un peu pourrir l'Assemblée Générale d'Habitat Humaniste à Paris en créant des actions, en appelant les médias, en s'habillant en peintre, en repeignant leurs locaux, etc., etc. Au bout d'un moment, ils en ont eu marre, donc ils ont arrêté de vouloir acheter. Le diocèse a à nouveau essayé de vendre, et là, un particulier, et la mairie a préempté le lieu. La mairie, à l'époque, c'était Cohen. Donc là, ça doit être en 2006-2007, quelque chose comme ça. Alors déjà, la première chose que moi je trouve intéressante, c'est cette clause morale qui a évolué avec le temps, en fait. Et donc on se retrouve avec la mairie qui rachète, qui vient nous voir en nous proposant une convention administrative. Ce qui est juridiquement pas très solide, puisque en cas de changement de mairie, ils peuvent la faire sauter, etc. Mmh. etc. L'exemple typique, c'est Mixart Miris, qui avait juste une convention. À ce moment-là, on leur explique que nous, on n'a jamais souhaité être racheté par la mairie. Donc maintenant, on est ensemble, donc on va chercher une solution de divorce à l'amiable. On a commencé d'abord à négocier avec l'équipe de Cohen, et après, nouvelle élection municipale, et Moudenc repasse. On a fait une pétition, on a commencé à créer un rapport de force, et ils se sont mis à vouloir discuter avec nous. Au final, ils étaient plutôt contents de discuter avec nous, parce que typiquement, on ne demandait aucune subvention de fonctionnement, on ne demandait rien, juste à être tranquille. Et donc, à force de discuter, on leur a présenté la solution du bail emphytéotique, qu'ils ne connaissaient pas. Donc ça vient du droit rural et ça donne aux locataires les droits et devoirs d'un propriétaire en échange d'un loyer modique, minimum 19 ans, maximum 99 ans. Donc nous, au final, on a signé un bail de 40 ans avec un loyer annuel de 500 euros et à l'intérieur une clause comme quoi si le lieu était remis aux normes, s'il était aux normes ERP, établissement recevant du public, on pourrait l'acheter pour la somme de 100 000 euros. Et on avait 5 ans pour faire ça. Techniquement, on a pris 2 années de plus, mais parce qu'avec le Covid, ça a décalé pas mal de travaux, même pour nous, etc. Et le bail a été signé en 2018, et donc en janvier 2018, donc la fin de cette clause, c'est en janvier 2025. Donc là, l'idée, c'est que sur le bail de 40 ans, il y a quand même 7 années qui sont déjà écoulées, donc il ne reste plus que 33. Donc l'idée, ça serait là maintenant d'activer cette clause, puisqu'on est quasiment aux normes, il y a quelques trucs à terminer, mais normalement, ça devrait le passer. Qu'une association en soit définitivement propriétaire et pour le sortir de la logique marchande, en fait. On a toujours essayé ici de faire sur du très long terme. C'est aussi pour ça, par exemple, qu'on a toujours défini la fin des soirées à 22h pour faire attention au voisinage. Quand on faisait des travaux, à chaque fois, on essayait de les faire un peu dans la durée, histoire de pérenniser au maximum le lieu. Et donc, ce rachat vient dans cette logique de pérennisation du lieu.
Est-ce que tu peux nous présenter le projet actuel de la chapelle? Qu'est-ce que c'est qui s'y retrouve, qui l'utilise? Qu'est-ce qu'elle est vouée à devenir?
Les gens dans le collectif ont toujours défini la chapelle principalement comme un outil, un peu au service de différentes luttes ou de différents acteurs culturels, etc., etc. Typiquement, ça permet d'avoir une salle relativement grande, qui est facile d'accès pour des collectifs qui n'ont pas forcément accès à des salles de la mairie ou de choses comme ça. Donc il y a différents collectifs qui traînent par ici. Il y a eu à la fois des minorités isolées, des collectifs LGBTQ+, des différents collectifs. Palestine vaincra, le GECO. Enfin, l'idée c'est voilà, soit des soirées, soit aussi des projections, des débats. La salle est multiforme, donc il y a eu aussi des fois des défilés de mode. Il y a eu de l'effeuillage burlesque. Il y a eu plein de choses différentes en fait. Il y a à la fois la possibilité de faire des choses très théâtrales. Il y a aussi des personnes qui sont plutôt dans les logiques de cirque qui viennent, qui a 10 mètres sous plafond. Ça permet de faire de la corde, des choses comme ça en hauteur, de profiter un peu de l'ensemble de l'espace. Il y a aussi l'extérieur, ce qui fait qu'on a déjà eu aussi des troupes de théâtre qui utilisaient aussi l'ensemble du jardin, l'ensemble des lieux. Donc après, l'idée, voilà, c'est d'être au service un peu de tous ces autres collectifs, d'être un outil multitâche, réserve, de faire à la fois, des fois des collectifs nous empruntent du matériel pour faire à manger des bouffes collectives ou des choses comme ça. Voilà. Il y avait des réunions, des AG, etc., etc. À l'époque des gilets jaunes, à chaque fois pendant les manifs, le lieu était ouvert, ça veut dire que s'il y a des gens qui voulaient aller aux toilettes, boire de l'eau, se poser un peu après ou pendant la manif, il y avait cette possibilité-là, quoi.
Est-ce que tu dirais que ça peut être un outil de politisation ou une passerelle?
Alors ça a été le cas, et notamment avec la logique des lundis de la relâche, où en fait quand il y avait déjà ça prenait à des personnes qui n'avaient pas forcément ces logiques-là de s'autogérer, avec un fonctionnement horizontal. Après en plus il y avait des prises de parole aussi de collectifs plus politiques, militants, politisés, ce qui permettait aussi d'ouvrir un peu les yeux à des personnes qui étaient moins dans ces logiques-là de militantisme.
Est-ce qu'elle touche un peu le quartier? Est-ce que tu as des gens du coin qui viennent après le taf c'est le lundi soir à la
Alors, c'était pas forcément beaucoup des gens du quartier. Il y avait à la fois des logiques de personnes étudiantes, parce que ça faisait un repas prix libre pas très cher, un bar pas très cher. Il y avait aussi des personnes, des militants qui voulaient se poser, discuter entre eux. Ici, où, comme il y avait beaucoup de militants, il y avait des contacts qui se sont créés. pendant la période de Covid. On s'est transformé en... Il y a eu ce qu'on appelait la récup, où en fait, il y avait une quinzaine de points dans la ville qui récupéraient de la bouffe. Ici, on la nettoyait un petit peu pour désinfecter et ça repartait. Et on était monté à quasiment une tonne par jour, quoi, de nourriture. Et ça, c'était à la fois des collectifs qui traînaient sur le lieu, qui, des fois, pour certains, ne se blairaient pas. Mais la chapelle, c'est un peu la Suisse, et donc par défaut, comme là, et tout le monde avait un besoin, tout le monde travaillait ensemble, et voilà. Donc c'est, ça permet à des gens de se politiser, ça permet à des collectifs de se croiser entre eux, sur un terrain neutre. Donc de faire du réseau, des échanges, etc. etc. Donc, on ne souhaite pas avoir une couleur politique, politicienne, en fait. Enfin, ici, c'est plutôt la politique au sens global de la vie de la cité.
Il faut mettre combien sur la
table ? Alors, il y a 100 000 euros, donc ça, c'est la clause de rachat. Il faut rajouter 10 000 euros de frais de notaire et 10 000 de commissaire au compte. Donc ça fait le premier palier à 120 000. On est déjà normalement plus de 62 000. On a commencé début octobre, là on est début novembre et ça doit se terminer mi-décembre.
Okay.
Et après on a donné un deuxième palier à 150 et là c'est plus pour acheter du matos.
Donc 30 000 euros pour éventuellement améliorer la mise en
les lumières, du matos au niveau des tables et des chaises, ça veut dire qu'à force qu'on les prête à droite à gauche, il y en a beaucoup qui sont pas forcément revenus, il nous en manque. C'est l'idée d'essayer d'équiper un peu le lieu.
Et c'est quoi la structure qui rachète alors ?
Alors ça, c'est encore en grande discussion. Ce qui va se passer, c'est qu'on a une logique de poupée russe. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit l'asso qui utilise le lieu qui la rachète. Ouais. Comme ça, en cas de problème, tu peux faire sauter des fusibles. On essaie de séparer au maximum l'usage de la propriété pour éviter que s'il y a un problème au niveau de l'usage, ça impacte la propriété. Il faut voir qu'aussi sur le lieu, il y a différents collectifs. Donc il y a l'atelier idéal qui gère le lieu, il y a aussi le kiosque à la librairie associative, il y a la dérive. À une époque, il y avait une AMAP. Maintenant, ils sont plutôt au pavillon sauvage, puisque ça faisait un an qu'on était aux travaux. À une époque, on avait un four à pain, donc il y avait un collectif de boulangers aussi. On a dû le démonter quand on a fabriqué le kiosque.
Okay.
Et donc après, moi, je suis partisan que dans l'asso, ce soit une collégiale où il n'y ait que des personnes morales, aucune personne physique. Et donc, il y a les différentes associations, à la fois les associations qui sont déjà sur le lieu, des associations qui utilisent fréquemment le lieu, et aussi rajouter un fusible de type Antidote ou le Clip, qui sont des collectifs qui gèrent des lieux collectifs, on va dire. Et eux, dans leur statut, c'est marqué noir sur blanc qu'ils n'ont pas le droit de vendre. Donc comme ça, ça ferait une protection.
Est-ce que tu peux me brosser un tableau rapide des autres espaces disponibles dans Toulouse ?
En lieu un peu collectif, il y a le hangar de la Sépière, mais qui est quand même beaucoup plus petit. Historiquement, il y avait aussi un autre squat qui s'appelait le Poum, qui était un gros entrepôt aussi où il y avait pas mal d'activités. Mais ils ont aussi arrêté. Quand même, on a un lieu qui fait pas loin de 300 mètres carrés sol, plus le jardin. Donc ça fait quand même un lieu où on peut rapidement, à 150, on est encore confortable. Hein. Il y a pas de problème. Et après, ça commence à être moins confortable vers 200, 250. Quoi. Des lieux de cette taille, en fait, il y en a plus trop. Et la probabilité qu'on retrouve un lieu où que même des collectifs arrivent à en squatter, en fait, il y a eu à une époque pas mal de CSA, des centres sociaux autogérés. Mais à chaque fois, ça s'éloignait de plus en plus du centre-ville parce que tous les bâtiments étaient de plus en plus pris. Et on n'est pas dans l'hyper-centre, mais on est juste à côté du boulevard. Donc on n'est vraiment pas très loin. Là, on doit être à 1 km à vol d'oiseau de la place du Capitole, je pense. Ça reste une position qui est relativement centrale. Il y a deux métros qui passent pas loin. Donc c'est quand même facile d'accès pour des gens qui ne sont pas véhiculés.
Bon, pour l'heure, il semble que je sois tombée dans un guet-apens, en plein dans la soirée, qui s'appelle La Relâche. C'est la première de ce type depuis 2018 et nombre de Toulousains et de Toulousaines ont répondu présents. Vous les entendez autour de moi. Au prétexte d'un repas, des gens du quartier et des militants se côtoient ici, discutent, écoutent une intervention, politique ou non, refont le monde, se relâchent, dans un espace qui se veut en dehors des impératifs de consommation qui constituent en grande partie la ville. Mais aussi en dehors de l'espace privé et de l'ordre public. Ici, on se veut accueillant pour tout le monde et on porte fort de ne pas rester dans une logique de milieu. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus des soirées La Relâche ?
Ouais, les soirées de la relâche, c'est des soirées qui ont été organisées pendant 10 ans, jusqu'en 2017-2018. Le terme relâche vient du fait que les artistes, je disais qu'il y a beaucoup, il y avait beaucoup d'artistes au sein de la chapelle. Le lundi, c'est le jour de la relâche, c'est le jour où il n'y a pas de spectacle. Les spectacles, les théâtres sont fermés, les salles de spectacle sont fermées. Et du coup, eux, ils ont décidé de prendre cette date-là, ce jour-là de la semaine, pour faire des soirées. Et elles avaient la spécificité d'être des soirées où il y a une petite bouffe à prix très modique pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc quand je suis arrivé, ça devait être 2-3 euros, quoi. Et une scène musicale ou du théâtre. Et il y avait toujours un petit moment qui s'appelait l'édito, où des gens venaient prendre la parole pour parler de sujets qui leur tenaient à cœur, mais aussi si un collectif de la ville ou une asso de la ville qui a des messages à faire passer. Ça donnait un petit peu une actualité de la vie militante sur la ville, quoi.
Moi, c'est Clara. Du coup, je suis arrivée à peu près, la première fois à la chapelle, pareil, je dirais à peu près 8 ans. Je suis venue, c'était, il me semble, pour une soirée contre le racisme, du coup, une soirée de soutien. Bah, moi, ce qui m'a marqué, c'est que du coup, je venais un peu de. Je connaissais ces collectifs-là et ces milieux-là, donc forcément, ça me touchait. Je voyais que c'était un lieu qui était assez important et assez fort de la ville, puisqu'en fait, il permettait d'accueillir toutes ces soirées-là et que, en fait, c'est des collectifs qui n'ont pas énormément de moyens et de possibilités d'avoir un local. Du coup, c'était un peu l'endroit où tout le monde se retrouve et où tout le monde converge. Et à la fois, c'est quand même un lieu festif, un lieu où tout le monde s'entend bien, peut s'intégrer. J'ai aussi connu la chapelle parce que j'ai fait du coup les travaux aussi. Et donc là, c'était la toiture.
Tu donnes tes sous à la chapelle au lieu de les donner à l'État, quoi.
La chapelle, un lieu d'expérimentation sociale, politique et culturelle à Toulouse depuis 1993. D'abord squatté pendant plus de 20 ans, nous avons aujourd'hui l'occasion d'acheter ce lieu en plein centre de Toulouse. D'octobre à mi-décembre 2024, une campagne de financement participatif a lieu. Plus d'infos sur lachapelletoulouse.com.
Yeah.
Toujours sur l'actualité des luttes, nous ne pouvons pas finir cette émission sans vous parler de la manifestation qui s'est déroulée à Paris le 10 novembre dernier, une manifestation gigantesque pour revendiquer l'arrêt de la profitation dans les territoires d'outre-mer.
Parce que après les tables rondes, l'échec des tables rondes et que le peuple n'a pas été écouté, okay. Aujourd'hui on leur amène leurs problèmes à leur porte, à leurs pieds, et on veut voir si là aussi ils vont refuser de comprendre que le peuple a refusé ce protocole, et s'ils vont encore ignorer le problème qui perdure depuis déjà bien avant 2009, depuis 2009 et depuis 15 ans maintenant qu'on est en 2024.
Mais c'est important parce qu'on a une population, on a un peuple ultramarin qui est aussi sur l'Hexagone et qui, quand ils viennent en vacances aussi, c'est très difficile pour eux. Ils le constatent comme nous-mêmes. C'est inadmissible que nous ayons des ultramarins qui viennent en vacances dans leur pays et qui viennent avec les valises remplies de denrées alimentaires parce que le budget vacances est grévé par l'alimentation. Et c'est tout à fait normal qu'ils répondent présents aujourd'hui et il était de notre devoir de venir les rejoindre pour leur dire que nous partageons le même constat et que c'est ensemble, dans l'unité, tous les outre-mer ensemble pour faire baisser les prix en outre-mer. Nous espérons rencontrer toutes les personnes qui ont le pouvoir de faire changer les choses, casser les lobbies, casser les oligopoles et casser surtout des marges bénéficiaires qui nous assassinent au profit d'un capitalisme ultramarin qui n'est plus possible. Au contraire, ils ont augmenté depuis. Ils ont encore augmenté les prix. Nous avons des clients qui nous disent qu'ils observent 10% par rapport aux semaines précédentes. Donc, est-ce que par rapport au blocage, ils sont en train d'augmenter là où ils ont perdu? Et c'est à chaque fois nous qui devons payer. Non, c'est pas fini et ça continuera toujours de manière pacifique.
Dorénavant, c'est comme ça pour nous faire, nous parler de Dieu, parce que savent que force à notre cabanou là, énergie à notre cabanou là, sans diffé pour nous continuer à boumer en bas, et nous parler à Dieu tous les jours nous au combat. Non, là, Dieu qui a fini, les rebalous ça nous mander, les rebalous ça nous mander en pied nous, vraie liberté nous dit manger qu'on nous l'a, vraie liberté nous dit circuler qu'on nous l'a, reste nous, ça gagne pas chez même nous, respect à gagne pas ancien nous dans le combat à yo menéen. Parce que combattant, ce n'est pas un nouveau combat. Combattant, c'est continuité 2009. Nous, c'est riche, les mouna qui vont en 2009. Riche, c'est mouna qui attendent 15 ans, qui n'ont pas respecté ça, qui ont demandé. Je dis à nous, qui n'ont pas respecté l'ancien, nous. Coutant à nous, pas d'accord, pas certain, non. Coutant à nous, qui ont lâché, nous, qui ont pensé à qui ça, nous. Qui ont parlé. Abi, un pour vous. Un pour vous. Respect à tout le monde en force. Merci, les amis. Moi, mes enfants, l'eau.
Merci en pile. Votre part est écouter les médias français qui décalaient le RPAC, qui décalaient le R. Vous êtes bien senti. Et puis la foi, la spiritualité, que c'est pas bordel, nous venons mettre pièces ce côté. Nous pacifiques, ça nous a dit, c'est que les autres, vous avez décidé de rentrer.
Oui,
aujourd'hui,
baissez les prix.
Aujourd'hui,
baissez les prix.
Aujourd'hui,
baissez les prix.
Aujourd'hui,
baissez les prix.
Non à notre cher.
Non à notre cher.
Non à notre cher.
Non à notre cher.
Rassemblement. Nous avons créé ce groupe à l'appel du RPRAC qui sont ici et nous sommes fiers et nous sommes très fiers de les voir aujourd'hui, parce que avant le 1er septembre, nous avons suivi tout ce qui s'est passé en Martinique. Le 1er septembre, un appel a été lancé avec une injonction qui a été donnée un ou deux mois avant, il me semble. La Caraïbe a suivi ça de près. Le 1er septembre, on s'est tous rassemblés, on s'est rassemblés au parc de Créteil. On était 400 et aujourd'hui, regardez le nombre de personnes qu'il y a aujourd'hui. Alors je dis merci à vous. Vous pouvez vous applaudir. Applaudissons-nous tous. Baille la main. Le 1er septembre, mon souhait, il n'y avait pas de micro, était de faire une seule chose. Rassembler le peuple caraïbéen ici en France ultramarine. Parce que le peuple caraïbéen là-bas a besoin de nous, a besoin de notre voix, a besoin de notre tête. Parce que nous sommes intelligents, a besoin de notre bras, a besoin de tout ce dont nous avons pour pouvoir faire avancer la Caraïbe. Parce que la Caraïbe appartient au peuple caraïbéen. C'est important de le comprendre. Nous étions près de 300 le 1er, accompagnés du RPRAC France qui sont ici aussi. Nous avons créé un groupe Caraïbes Rassemblement afin de nous assembler dans plusieurs thématiques. Et ce groupe-là va encore grandir. Il y a beaucoup de personnes qui sont là qui veulent rejoindre ce groupe. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Parce que ensemble, nous plus fort, c'est ensemble que nous allons faire en sorte que la Caraïbe avancera aussi bien au niveau du lienage, aussi bien au niveau économique, aussi bien au niveau social. Un seul mot d'ordre, c'est ensemble. Du 1er septembre jusqu'à maintenant, nous avons mis des réflexions et des actions en place pour que nous, en zone ultramarine, nous puissions aider le mouvement de la Bichère là-bas et que nous puissions aussi ici mettre en place des projets comme toutes les autres communautés font. Nous sommes une communauté forte. Il faut qu'on continue à se renforcer. Il faut qu'on continue à créer des choses, des liens forts dans tous les domaines. Ce ne sont pas simplement quand il faut danser ou quand il faut chanter qu'il faut montrer nos talents. Il faut montrer nos talents dans tous les domaines, s'il vous plaît.
On est puissants.
Prenez en compte que quel que soit ce que nous faisons, quelles que soient nos divergences, il faut que nous soyons unis. On va continuer ce combat-là dans l'unité et on va gagner ce combat.
Mamaï la Caraïbe, Mamaï Martinique, Mamaï Guadeloupe, Mamaï Guyane, Mamaï la Réunion, Mamaï Kanaky, Mamaï la Polynésie, Douvan Douvan, l'honneur et puis respect bas ancêtres nous. Nous sommes venus ici aujourd'hui. Nous avons bravé la sécurité intérieure de la France. Nous sommes ici présents. J'oubliais de saluer les renseignements généraux. J'ai oublié de saluer les ministères. J'ai oublié de saluer les forces de l'ordre qui sont ici autour de nous. Je vous salue. La vie est chère. Voici ce qui nous réunit aujourd'hui tous, à l'endroit de tous les ultramarins. Oui, avant d'acheter vos billets d'avion, avant de payer votre voiture de location quand vous arrivez dans nos territoires, avant de trouver un logement, la première question qui vous vient à l'esprit, est-ce que dans mes bagages j'emmène des denrées alimentaires? Parce que les petites économies que j'ai faites passent dans les prix de l'alimentation. Oui ou non? Levez la main! Nous à la Martinique, aujourd'hui, un père, une mère de famille qui travaille, qu'il soit fonctionnaire ou non, ont leur budget grévé tous les 10 jours au minimum de 300 euros. Il y a 4 semaines dans un mois, pas moins de 1200 euros pour acheter en plus une nourriture qui ne correspond pas à notre physiologie. Nous sommes obligés d'acheter de la malbouffe à des prix exorbitants. Et c'est ce qui a motivé notre président Rodrigue Petito, Gladys Roger et moi-même, Aude Goussard, à nous dire que nous serons la voix de tout le monde. Et nous avons bravé les coups, nous avons bravé lacrymogène, nous avons bravé les gardes à vue, nous avons perdu pour certains nos emplois, uniquement parce que nous avons eu le courage de ne pas nous taire. Et c'est grâce à vous, ici, grâce à Lyon, grâce à Montpellier, grâce à Toulouse, grâce à toutes les régions de France où vous vous trouvez, grâce à la Kanaky, à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Réunion, que nous avons trouvé cet écho. Vous avez partagé pendant des semaines tous nos lives. Vous avez communiqué, vous avez fait des comparatifs de prix en direct sur l'ensemble de nos territoires et de Paris. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble. Mon cœur est rempli d'amour pour vous tous. Il est question très rapidement de vous dire que nous sommes pacifiques, que nous ne souhaitons de guerre à personne. Mais si nous sommes français, nous devons l'être dans l'égalité et dans la fraternité. Et c'est pour ça que j'adresse un message solennel à tous les Français de France, à tous les Caucasiens de France, qui savent très bien que quand nous souffrons, ils ne souffriront pas loin derrière. Nous avons des comptes à demander à toutes les grandes marques de l'alimentation française. Savez-vous que vos marques dans nos territoires sont décriées, non pas à cause de vous, mais à cause d'une grande distribution scélérate que je nommerai ici le syndicat de la grande distribution, à savoir le groupe Bernard Ayotte, ouais, le groupe Despointes, ouais, le groupe Fabre, ouais, tous ces groupes qui viennent acheter dans les grandes marques françaises à des prix réduits, parce que par phénomène de massification, quand ils achètent une brique de lait pour la Martinique, ils l'achètent dans le même temps pour la Guadeloupe, pour la Réunion, pour la Guyane, pour la Kanaky, pour Mayotte. Et grâce à cela, ils ont des prix d'achat très très faibles. Mais quand ils arrivent sur nos territoires, ils multiplient jusqu'à 300% et ils font croire que c'est parce que nous sommes éloignés. Alors je m'adresse à Monsieur Emmanuel Macron, je m'adresse au ministre des Outre-mer, je m'adresse au ministère de l'Économie. Si nous sommes français, soulagez-nous, nous payons des impôts, nous payons des taxes, nous avons des radars. Et même cette même répression policière qui s'abat au moment même où je m'exprime à la Martinique et à la Guadeloupe et à Kanaky. Sachez que vous-même, les forces de l'ordre, quand vous arrivez à la Martinique, malgré vos primes et vos 40%, vous nous regardez, vous nous dites, nous sommes obligés de faire notre travail, mais oui, nous admettons que la vie est trop chère dans les territoires d'outre-mer. Par conséquent, nous exigeons à ce que le dialogue ne soit pas rompu avec la population. Aujourd'hui, c'est une réalité. La classe politique des Outre-mer a du mal à faire entendre notre voix. Et quand le ministre des Outre-mer se permet de dire qu'il ne veut pas se déplacer sous la pression, nous sommes en train de prouver que la soupape et que la cocotte ne tardera pas à exploser. Et ça a déjà commencé. Et que le ministère des Outre-mer est le représentant du peuple français et du peuple des Outre-mer. Et quand le peuple des Outre-mer souffre, il faut qu'il y ait un ministre des Outre-mer pour répondre aux attentes du peuple des Outre-mer. Alors nous avons souhaité nous déplacer jusqu'au ministère pour prouver que trois enfants ultramarins Gladys, Rodrigue et Aude, nous avons franchi tous vos barrages, depuis la Martinique arrivée jusqu'ici. Et aujourd'hui, nous marchons vers vous, sans pression, pacifiquement, dans l'attente d'être reçus, parce que ce protocole d'intention n'est point un protocole d'accord. Le peuple n'a pas signé, même si Léon Prac n'est pas élu. Nous représentons le peuple et vous en avez la preuve aujourd'hui même, comme vous en avez eu la preuve sur toutes les marches qui ont débuté. Alors nous restons ouverts à la presse, au ministère des Outre-mer et pourquoi pas jusqu'à Monsieur le Président de la République. Nous souhaitons retourner chez nous avec des réponses claires. Le pacte colonial n'a plus sa place dans les Outre-mer. Et je m'adresse enfin, mesdames et messieurs, à nos chers agriculteurs, nos agriculteurs qui souffrent et qui ne bénéficient pas des fonds européens qu'ils devraient avoir pour pouvoir développer une alimentation qui nous ressemble. Alors nous appelons également le Parlement européen qui nous regarde aujourd'hui à prendre conscience que nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes là pour résoudre des problématiques qui n'ont que trop duré sur fond de pacte colonial. Et je m'adresse enfin à Monsieur Bernard Ayot, à Monsieur Despointes, à Monsieur Fabre. Vous avez la responsabilité de changer vos mentalités coloniales. Nous ne sommes plus des sujets du roi, nous ne sommes plus des meubles, nous sommes des travailleurs, nous sommes des hommes dignes et cette vie chère va être terrassée par notre voix.
Pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine, sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canassil, à Toulouse, et bien évidemment, Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.